au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Maurice Godelier, bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un lieu que vous connaissez bien puisqu'il est le temple académique des sciences sociales en France et puis l'endroit où vous êtes directeur d'études. Vous êtes anthropologue, connu internationalement, avec un parcours plutôt exemplaire puisque vous entrez premier à l'École normale supérieure. Vous êtes agrégé de philosophie, vous rentrez à l'École pratique des hautes études et vous êtes licencié en psychologie et en lettres modernes. Vous devenez maître assistant de Braudel et puis du grand Claude Lévi-Strauss. Enfin, vous décrochez en 2001 la médaille d'or du CNRS. Non, vous n'êtes pas vraiment orgueilleux. Vous êtes plutôt, oserais-je dire, un peu grande gueule à contre-courant de ce temple académique où vous me recevez aujourd'hui et où vous travaillez. Vous n'hésitez pas à remettre quelquefois les pendules à l'heure quand cela est nécessaire et tout cela peut-être fait pâlir quelques-uns de vos confrères. Vous n'oubliez pas le terrain. Ce terrain est cher à votre cœur et vous le dites haut et fort, il ne faut pas l'abandonner. Alors fidèle à cette phrase, vous restez de nombreuses années en Océanie et vous faites de la Nouvelle-Guinée votre domaine d'expertise. Vous y séjournez au sein d'une tribu nommée Barouya. Mais l'aventure n'est pas finie. À plus de 70 ans, vous continuez aujourd'hui à sillonner le monde entier et à transmettre vos 40 années de travaux à la jeune génération que vous voulez ouverte et surtout les pieds sur terre. Monsieur Godelier, si je disais que vous aimez remettre les pendules à l'heure, c'est le cas dans votre dernier livre qui s'intitule « Au fondement des sociétés humaines », livre édité chez Albin Michel. Et donc, c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, puisque dans ce livre, vous bousculez un certain nombre d'idées reçues et établies depuis fort longtemps. On vous sent un peu agacé, vous en avez marre, vous nous expliquez que, ben non, la famille n'est pas le fondement des sociétés, comme cela a été dit depuis le tout début avec Aristote. Non, il faut plus qu'un homme et une femme pour faire un enfant, ou encore que la sexualité humaine est fondamentalement asociale. En gros, vous osez vous ériger contre les plus grandes figures de l'anthropologie, depuis Morgan ou Tyler jusqu'à Lévi-Strauss. Alors on se demande un peu si pour tout cela, il ne faut pas un peu d'audace ou peut-être de courage. Qu'en pensez-vous, monsieur Godelier ?
Oui, du courage, mais il y a les arguments derrière. Mais pas pour me faire valoir. C'est simplement que mes travaux m'amenaient constamment à déconstruire des choses que j'avais emmenées avec moi. Que lorsque vous êtes jeune, vous vous construisez un moi cognitif. Comment vous faites ? Vous allez à l'université ou par d'autres lieux, par d'autres moyens. Vous lisez des livres, vous êtes à une époque où c'est le structuralisme et le marxisme qui dominent. À une autre époque, ça sera autre chose. Vous partez avec tout ça dans votre tête. Hein ? C'est bien, vous avez un moi cognitif virtuel. Quand vous arrivez et que vous passez 7 ans le long de 20 ans, pas en continuité, ça était 3 ans au départ, et que vous menez des enquêtes systématiques, mais aussi que la vie tous les jours vous présente des événements. Les gens tous les jours vivent, ils font des tas de choses. Si vous êtes au milieu d'eux, vous êtes obligé, si vous n'êtes pas idiot et aveugle, de vous interroger sur ce qu'ils font, d'essayer de comprendre. Ça, c'est l'observation que j'appellerais passive, puisque c'est les gens qui vous l'offrent. Le boulot d'un anthropologue, c'est pas seulement d'être au milieu, c'est d'organiser des enquêtes systématiques qui ne sont pas la vie des gens. Tous les jours, aller de maison en maison faire des généalogies, ou pendant un an, de champ en champ, mesurer les champs, savoir comment les gens et pourquoi ils font ça. Ça, c'est des enquêtes systématiques où les gens coopèrent avec vous, mais ça bouscule leur vie. Donc, ne croyez pas qu'on est des journalistes. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes peut-être quand on est assis pour attendre des événements autour de soi. Donc, si vous voulez, lorsque vous faites tout cela, les évidences que vous avez emmenées avec vous, les vérités dites scientifiques, elles sont confrontées à des expériences. Et ces expériences peuvent tout à fait vous faire dire que ben, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Les gens ne se posent pas la question Quand j'étais jeune, dans tous les manuels, c'était marqué, je vous parle en anglais parce que c'était dominant dans notre profession, les sociétés primitives, c'est l'objet des anthropologues. C'est pas vrai. Passons là-dessus. En tout cas, la définition, c'est les sociétés primitives sont « kin-based societies », des sociétés fondées sur la parenté. Alors, j'étais en plein dans une société où, qu'est-ce qu'il y avait devant moi? Seulement que des groupes de parenté, 15 clans. Et donc, vraiment, je pensais tomber au plein milieu du paradis des anthropologues, non? Mais je me suis posé la question suivante, qui était une question d'ailleurs qui est venue par hasard et dont la réponse surtout m'a frappé. Un jour, je fais mon boulot, c'est-à-dire je demande aux barouillas comment vous êtes devenus des barouillas. Je ne me rendais même pas compte de l'importance de cette question. Alors ils me disent, mais Maurice, nous on n'existait pas avant. Ah bon? Non, on n'existait pas comme société. Nous, on vient de chez les Yoyue, des réfugiés. On est des... Mais je dis, comment vous êtes devenus alors les barouillas maîtres d'un territoire là? Donc, commencer, si vous voulez, une histoire. Tiens, voilà une société qui n'existait pas. Comment a-t-elle existé? Donc, j'ai posé la question, mais dans la langue et dans les catégories, et quelqu'un m'a répondu. J'ai découvert que quelqu'un m'avait répondu, mais dans ces catégories. Il m'a dit, Maurice, on a commencé à être nous-mêmes lorsqu'on a construit notre timia. Ça, vous ne savez pas ce que c'est qu'une timia. Dur, dur. Mais là, il me donnait la réponse. J'ai compris après. Je vais vous traduire tout ça en termes européens, si vous voulez, occidentaux. Il a voulu me dire ceci. On a commencé à être nous-mêmes lorsqu'on a initié nous-mêmes nos garçons dans la timia, c'est-à-dire dans la grande maison cérémonielle. En plus, timia, c'est lié au mot timier. Timier, j'ai dû découvrir que c'était le grand poteau central de 20 mètres de haut sur lequel repose le toit tout entier. Et que c'était ce poteau l'ancêtre du clan des barouillas. Ensuite, on m'a expliqué que tous ces poteaux, c'était un squelette. Et que ce qu'ils avaient construit, ils me le disaient dans leur langue. Ils ont dit, tu vois, c'est le corps des barouillas. Donc voilà des gens qui savent au moins utiliser une métaphore, n'est-ce pas? Cette grande maison était leur corps. Les os, c'était les poteaux. Et au-dessus, il y avait le chaume qui était la peau qu'apportaient les femmes. Alors, mais qu'est-ce que c'était que les poteaux? Après, ils m'ont expliqué. Il faut vivre avec les gens, il faut qu'ils acceptent de vous dire tout ça quand même. Hein. Ils m'ont expliqué, chaque poteau, c'est un jeune initié. Ok? Donc, ils avaient construit un édifice dans lequel entrait une nouvelle génération. Ensuite, ils ont jeté du haut de ce mât, ils ont jeté un gibier vivant qui est mort en bas. Et on l'a donné à manger au plus vieux devant moi. Le plus vieux de la... pas de la tribu, en tout cas de la vallée. Et je demande pourquoi vous faites ça. Ils m'ont dit, mais Maurice, il faut qu'il meure avant la prochaine initiation. Lui, il part, les jeunes arrivent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu que cette société... Je traduis en termes occidentaux. J'ai fait toute une enquête sur tous les rapports de parenté de ces gens-là. J'ai vu que la parenté ne fabriquait pas la société. Les échanges de femmes, alors là, les barouillas étaient des spécialistes, donc j'étais en plein dans Lévi-Strauss. Hein. Échange des femmes entre les lignages, tout le temps, tout le temps. Ça ne crée pas une base commune. Et en plus, les lignages explosaient et allaient vivre chez les autres. Chez les autres, c'est-à-dire qu'une autre société. Donc ça ne fabriquait pas une société. Alors j'étais parti il y a bien longtemps avec aussi l'hypothèse marxiste, des modes de production qui expliqueraient l'économie expliquant beaucoup de choses de la vie, c'est certain. Mais attention, le marxisme c'était plus ambitieux que de dire ça explique quelque chose. Ça expliquait tout. La succession des modes de production aurait expliqué l'histoire humaine. Donc j'ai étudié tous les rapports économiques de ces gens. Et j'ai vu que leurs échanges économiques et leurs activités économiques propres ne créaient pas une société. Donc il fallait que je cherche qu'est-ce qui avait créé une société. Quels sont les rapports sociaux qu'ils avaient construits entre eux, qui les avaient englobés et fait société. J'ai dû conclure, après l'analyse, en ayant vécu avec eux, participé aux initiations, que ce qui avait fait leur société comme un tout, c'était le fait qu'ils initiaient tous leurs enfants, quels que soient les lignages et les villages, ils les initiaient ensemble, et tous ces gens passaient le long de leur vie, d'étape en étape. Donc toutes les étapes étaient complémentaires, et elles se succédaient. Donc, je découvrais, si vous voulez, qu'il y avait des rapports sociaux qui institutionnalisaient une complémentarité entre tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, c'est pas quel que soit, parce que les femmes, c'est pas les hommes et tout, mais chacun trouvait sa place dans un grand ensemble qui englobait tout le monde, quoi. C'est là qu'était la société. La société commençait à exister que quand il y avait des rapports sociaux qui englobaient tout le monde et donnaient à chacun une place dans le grand truc. Ok ? Bon. Mais si vous réfléchissez ensuite à ce que c'était que ces cérémonies d'initiation, c'était des moments qui faisaient entrer les enfants ou sortir les plus grands qui allaient se marier, par exemple. Hein, on rentre, on sort. Ok. Bien. Donc c'était des moments dans lesquels une institution fonctionnait. Après 3 ans, alors qu'est-ce qui se passait entre les 3 ans? Et c'est là qu'on voyait bien que la société, c'était... Bien, tout le monde étant déjà classé dans un bloc et qui allait changer de place avec son âge, eh bien, entre les 3 ans, il y avait un dépôt. Le dépôt, c'était une institution qui les rassemblait tous dans un univers à moitié, vous comprenez, imaginaire. Nous sommes posés les questions du rôle de l'imaginaire et du symbolique. Grande question. Là encore, on se retrouve avec une époque, revenez en 49, revenez en 1950, introduction à l'œuvre de Mauss par Lévi-Strauss, proclamation que c'est le symbolique qui a le primat sur l'imaginaire. Monsieur Lacan ensuite s'empare de ça au congrès de Rome en 54, je pense, et il invente le père imaginaire, le père symbolique et le père réel. Mais ça, c'est autre chose. Le problème, c'était que vous ne pouvez pas avoir des institutions de ce genre sans qu'il y ait un noyau imaginaire dans son cœur. C'est-à-dire que les gens, quand ils construisent la chimia, ils font des marques tout en haut de... des grands 4 morceaux de bois qui sont nilamayés, des fleurs du soleil, et le dieu soleil se rapproche à ce moment-là des hommes. Sur le toit, il y a plein d'antennes qui sont plantées et, paraît-il, les esprits de la nature rentrent, les esprits de la nature qui entourent les hommes, c'est-à-dire les grandes montagnes, et les ancêtres sont là, donc vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Donc tout le monde est rassemblé pour faire une nouvelle promotion, pour faire bouger. Hein? Bon, ok. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas comprendre l'institution sans se référer à des événements complètement imaginaires, c'est-à-dire que les ancêtres ont reçu des objets sacrés qui servent au maître d'initiation à faire des guerriers, du soleil. Donc vous avez donc un noyau de réalité totalement imaginaire, mais qui est une réalité sociale, c'est ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas suffisant de dire que l'imaginaire, c'est du social, puisque c'est une pensée partagée. C'est que ça produit des institutions, quelque part. Comment ? Eh bien, par 2 étapes que je vous explique. Et c'est ça qui fait travailler l'analyse scientifique, qui fait avancer sur bien des points. Eh bien, quand on fait des grandes cérémonies, ça dure 1 mois, ça dure... Bon, c'est quand même du spectacle. Qu'est-ce que c'est que ces cérémonies ? C'est du symbolique. On met en scène et on met en acte le fait que les ancêtres ont reçu le paquet magique, etc. On tape sur les poitrines des jeunes en prononçant de façon discrète le nom du soleil que personne ne doit entendre, sauf les initiés, etc., etc. Et la force du soleil rentre dans le ventre des jeunes. Okay. Tout ça sont des pratiques symboliques, on appelle ça, nous, sur le corps. Mais bon, c'est des pratiques sociales. Maintenant, les cérémonies sont terminées. Qu'est-ce qui est déposé ? Eh bien, que toute la société est divisée en classes d'âge et répartie, et c'est un enveloppant, un englobant. Donc, vous voyez, maintenant, l'imaginaire partit du réel, le symbolique mettant en acte et en spectacle, c'est-à-dire en représentation, en vécu, et en émotion. En émotion, les gens, les rites, ça émeut, c'est des spectacles d'ailleurs, ça émeut, quoi. Hop, symbolique, mettant en acte et en œuvre et en scène l'imaginaire. Mais le résultat, c'est un dépôt. Et le dépôt, c'est une institution qui englobe tout le monde. Alors prenez les 3 choses que je viens de vous dire, de représentation imaginaire. mise en scène et en acte par des pratiques symboliques, qui sont des cérémonies, des rites et tout ce que vous voulez, quoi. Et ensuite, quand les cérémonies sont terminées, qu'on attendra 3 ans pour recommencer, il y a quelque chose qui reste et qui englobe tout le monde, qui sont des rapports sociaux réels, des institutions, les classes d'âge. Donc le réel, c'est les 3 choses. Alors que M. Lacan a opposé l'imaginaire et le symbolique en disant le réel, c'est le reste. C'est pas vrai. Pour nous, anthropologues, on n'est pas des psychanalystes ni des psychologues. Et même, je ne suis pas d'accord avec Lévi-Strauss là-dessus. Pour nous, le réel social, c'est l'unité combinée des 3 choses, l'imaginaire, le symbolique et l'institutionnel. Donc on n'a pas opposé l'imaginaire au réel. Si l'imaginaire n'est pas devenu réalité sociale, c'est parce qu'il est resté dans votre tête. Chacun peut avoir une imagination, mais s'il la garde pour lui-même, ça n'a pas d'effet social, ça a un effet sur lui-même. Donc c'est social, mais ça ne crée pas une institution. Donc tout ça, ça a été remis en cause dans ma vie de travail. Ça, la famille et donc les parentés ne créent pas de société. Donc le vrai problème devenait toujours, qu'est-ce qui fabrique une société concrète? Les Barouya, l'Éthiopie qui n'existait pas, l'Arabie Saoudite qui n'existait pas avant le XVIIIe siècle. Et après, quand j'ai commencé à découvrir toutes les sociétés qui n'existaient pas, c'est devenu un objet de travail. Comment les sociétés se mettent-elles à exister? Et c'est là que, si vous voulez, je me suis posé une question qui devient ni économique ni sociologique. Comment des groupes humains établissent une souveraineté sur un territoire, sur des ressources, sur des habitants, sur eux-mêmes? Et donc la question, si je la parle en langue française ou européenne, comment peut-on comparer les processus d'institution et de légitimation de formes de souveraineté, c'est-à-dire de création de sociétés réelles? Je ne suis pas un philosophe qui m'intéresse au fondement du lien social. J'en ai rien à faire de ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fondement d'une société, comment elle se constitue historiquement. Donc mon boulot, c'est un boulot qui travaille dans les sciences sociales, parce que je ne peux pas travailler sans les historiens. Les historiens pourraient d'ailleurs dire qu'ils ne peuvent pas travailler sans moi, parce que j'ai des visions du rôle du politique et du religieux qui peut les aider. Vous voyez un peu?
Il est l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle. Nous célébrons son entrée dans la Pléiade. Canal Académie rend hommage à Claude Lévi-Strauss. Qui se cache derrière le scientifique? Écoutez les témoignages de personnalités l'ayant connu, tels que André Comte-Sponville, Philippe Descola et Jean-José Marchand. Retrouvez les thèmes forts qui entourent depuis toujours le célèbre anthropologue. Et téléchargez dès maintenant les émissions en libre écoute.
Le livre nous fait progresser dans la compréhension de l'anthropologie depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui. Je pense notamment à l'introduction. Vous dites que l'histoire de l'anthropologie s'est développée de façon contradictoire. Vous revenez sur les ruptures et les renaissances et vous nous expliquez qu'au fond, elle lutte toujours elle-même contre elle-même.
Bon, d'abord, c'était la question qu'il y a plusieurs naissances à l'anthropologie, qu'il faut quand même connaître un peu son métier. Les physiciens ne sont peut-être pas obligés de savoir quelle était la physique de l'Antiquité. Mais nous, on est dans les sciences sociales et l'histoire de nos sciences fait partie de nos sciences, si on peut dire directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est une reconstitution très rapide et grotesque, on peut dire. Au début, c'est une anthropologie spontanée de missionnaires, d'administrateurs coloniaux, de militaires, curieux des coutumes des autres, surtout pour les administrer ou pour les convertir au christianisme. Et alors des tas de gens apprennent les langues parce que beaucoup de sociétés n'ont pas d'écriture dans l'histoire et ils font de l'anthropologie, si on peut dire, spontanée, quoi. L'anthropologie comme discipline des sciences sociales n'apparaît que dans la deuxième moitié du 19e siècle avec l'œuvre de Morgan et de Taylor. Et elle se constitue par décentrement, c'est là que c'est très clair. Décentrement et comparaison. C'est-à-dire qu'un missionnaire va décrire avec beaucoup d'intelligence comment les gens vivent, même s'il veut les convertir au christianisme. Bon, si c'est un type intelligent, bon observateur, vivant 18 ans, parlant la langue, il va donner beaucoup d'informations. Mais il ne va pas comparer la structure de parenté qu'il y a chez lui, parce qu'il ne va pas l'isoler en tant que tel, qui peut être la même mais en Amazonie, à 3000 km de là. Ce n'est pas son boulot, quoi. Ce n'était pas son problème non plus. À partir du moment où Morgan et Tyler sont quand même des gens qui avaient les moyens de vivre, de quitter leur métier, de faire des études et des recherches, ce n'était pas encore institué comme une discipline dans les universités. Eux sont les fondateurs, vous voyez. Mais en même temps, ils sont déconnectés de rechercher de l'argent parce qu'ils en ont, etc. Il faut quelques conditions pour se décentrer par rapport à tout ça. Ils le font, mais par la pensée aussi, hein. Et donc, ils se décentrent par rapport aux catégories de l'Occident, parce qu'un homme comme Morgan, qui s'intéressait aux Indiens, a su observer que dans un campement d'Indiens déjà dans les réserves, hein, comprenez bien, les Indiens déjà objets potentiels d'observation parce que mis dans les réserves de force. Bon. Eh bien, interrogeant des Indiens Sénéca de la Grande Fédération des Iroquois, il découvre avec étonnement que on appelle plusieurs hommes pères. C'est-à-dire que tous les frères d'un homme sont des pères. Il voit aussi que toutes les sœurs d'une mère sont des mères pour l'enfant. Donc, il voit que... Et c'est cohérent. C'est cohérent. Il voit que ça fait système. Donc, il découvre que ça fait système. Et donc, automatiquement, il voit que la notion de père, qui pour nous, c'est un homme unique... Là, il voit que c'est pareil, la notion de paternité, puisqu'elle peut recouvrir plusieurs hommes qui n'ont pas fait l'amour avec cette femme et n'ont pas engendré l'enfant. Mais ils sont pourtant ses pères. De l'autre côté, il voit que toutes ces mères qui n'ont pas accouché de cet enfant sont pourtant ses mères. Donc, il voit que ce n'est pas la famille nucléaire européenne avec un père et une mère, le mot étant, etc. etc. Donc, il est capable de se décentrer par rapport à sa propre... société, au système de parenté qui existe dans nos sociétés à nous, qu'on appelle un système cognatique. Et ensuite, cet homme passionné peut-être par sa découverte, il va visiter 82 groupes d'Indiens dans des réserves au Canada, ouais, et il découvre qu'il y a deux grands systèmes de parenté, alors qu'il y a beaucoup de langues différentes. Alors, les systèmes seraient indifférents à la langue. Ensuite, il a le génie d'envoyer 500 questionnaires dans le monde entier, et il est le premier homme à avoir reçu sur sa table les témoignages de la diversité mondiale des systèmes de parenté. C'est donc le premier homme qui a vu la diversité et qui a pu ensuite, par une quatrième étape, découvrir que tout ce qu'il avait sur la table, c'était des variantes de 6 systèmes, malgré la diversité. En Indonésie, ailleurs et tout ça, on avait des systèmes qui se ressemblaient dans des sociétés qui n'avaient aucun contact historique. Et il a donc été capable de faire une analyse de structure. Bon, après le deuxième Morgan, c'est pas marrant. Il a repris tout son travail pour montrer que l'humanité est passée de la sauvagerie à la barbarie, de la barbarie à la civilisation, et que les plus civilisés des civilisés étaient les Américains. Bon, c'est parfait, bon, très bien. On a dû se débarrasser de ça. On a dû se débarrasser de cette vision. Pour progresser, il y a eu crise. Et déjà, il a fallu se débarrasser d'une partie de Morgan pour pouvoir continuer au-delà de ce qu'il avait apporté, donc, etc.
Justement, vous évoquez les diverses crises par lesquelles sont passées, par lesquelles est passée l'anthropologie. Alors, nous remontons le temps. Vous évoquez les dates phares de l'évolution de l'anthropologie, les grandes transformations, les ruptures, donc les différentes crises. Alors, parmi ces dates importantes, vous dites que depuis 1989, le monde est de plus en plus globalisé sur le plan économique et qu'en revanche, sur le plan politique, on assiste au mouvement inverse avec la multiplication des nouveaux États-nations issus de la disparition des empires coloniaux puis de la désintégration de l'Empire soviétique. Quelle incidence cette reconfiguration du monde global a-t-elle sur l'espace dans lequel les anthropologues doivent exercer leur métier ? C'est important comme question.
Ce que j'ai voulu montrer, c'est peut-être même à mes collègues, sachez où vous êtes situés, dans quel moment du temps et de l'espace. On ne pouvait pas ignorer qu'un grand moment de floraison de l'anthropologie a été la fin des empires coloniaux. C'est vraiment à la fin que ça a fleuri. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Tous les grands anthropologues anglais, vous savez, Radcliffe Brown, Meyer Fortes, etc., Leach et autres, ils ont tous travaillé dans des colonies anglaises qui allaient disparaître. Donc, ce que je veux montrer, c'est que si l'anthropologie est devenue une discipline dans l'Occident, occidental, eh bien, la position d'un anthropologue occidental change avec les rapports de l'Occident et le reste du monde. Et il y a eu deux grands changements qui sont fondamentaux. La disparition des empires coloniaux, l'indépendance de ces pays. Et deuxièmement, l'effondrement du communisme. Et ce qui fait que des tas de régions ne pouvaient pas y aller parce que la police politique interdisait toute enquête réelle pour savoir les conditions réelles d'existence. Les pays comme la Russie, mais aussi le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, tous les satellites, tout ça s'est ouvert à nouveau. Mais donc la position d'un anthropologue a complètement changé, non pas par lui-même seulement, mais par ces grandes transformations mondiales. Vous voyez. Mais en même temps, paradoxalement, on se retrouvait dans un monde, c'est le nôtre d'aujourd'hui, dans lequel aucune société la plus petite possible ne peut avoir une vie matérielle et économique sans être inscrite dans l'économie capitaliste. C'est pas possible. Échange marchand, production de masse, etc. C'est pas possible. On peut pas avoir une Toyota, on peut pas avoir rien, un mobile dans une île du Pacifique, tout ça, c'est pas produit par eux d'ailleurs. Mais ils en ont besoin. OK? Donc d'un certain point de vue, on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, leur avenir économique dépend du système mondial de production marchande capitaliste. Mais on s'aperçoit d'une chose, on appelle ça globalisation, parce que c'est une intégration. OK? Mais on ne voit pas que l'autre côté complémentaire de la globalisation, c'est la segmentation. C'est la segmentation politique et culturelle. Je veux dire une chose. C'est d'ailleurs un paradoxe. Mais plus des pays sont intégrés dans l'économie capitaliste, comme la Chine, l'Inde, etc., plus ils sont intégrés, plus ils ont la capacité de résister à l'occidentalisation de leur mode de vie et à revendiquer le retour à leurs origines, la défense de leur culture, etc. Ça se voit parfaitement en Chine, néo-confucianisme. Ça se voit en Inde aujourd'hui où les classes les plus riches reviennent de façon en partie illusoire à la structure des castes. Ils sont plus hindouistes qu'ils l'auraient été il y a 30 ans. Bon. Et ensuite, on voit de multiples, ça c'est des restes de l'histoire, on voit la Bosnie revendiquer son autonomie, l'Ukraine vouloir se séparer, la Slovaquie se séparer de la Tchéquie, etc. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour exister sur le plan international, pour recevoir des aides, pour etc., il faut devenir un État. Même l'Ossétie du Sud voudrait devenir un État, 70 000 personnes. Un État qui sera dans l'État soviétique. Donc si vous voulez, c'est paradoxal, mais on ne peut pas progresser sur le plan culturel, politique et négocier sans avoir un État. Pour l'État, il faut le créer. Donc créer un État, comme on a fait dans le colonialisme, des États plus ou moins artificiels. Hein ? Bien alors, c'est des États qui revendiquent d'avoir une base ethnique, et alors vous avez vu ce que c'est qu'une purification ethnique. On a un État dont la nation qui va supporter l'État, puisque c'est des États-nations, elle va être clean, elle va être clean, c'est-à-dire il n'y aura qu'une seule ethnie. Donc les Kosovars vont revendiquer d'être indépendants, ils vont vouloir se séparer de la Serbie va dire non, c'est pas possible parce que là où ils habitent, c'est notre terrain historique de la défaite historique devant les Turcs, mais en même temps, c'est nos racines légendaires, etc. Et on voit ça tous les jours. Hein. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'avenir soit une intégration culturelle. Donc, dès qu'il y a diversité, les anthropologues sont rois. Nous sommes les spécialistes de la diversité culturelle, pas sans les historiens. On ne peut pas expliquer le soufisme, on ne peut pas expliquer le chiisme, le sunnisme, c'est-à-dire toutes ces grandes divisions, elles ont des siècles d'existence. C'est pas l'économie qui vous a expliqué ça, c'est pas les modèles économiques, c'est pas la nanotechnologie, c'est rien. Et pourtant, il y a des millions de gens qui meurent pour ça. Alors nous, on est sur le terrain, on n'est pas capable d'expliquer l'origine du chiisme. Il faut qu'on demande aux historiens de nous expliquer pourquoi cette division fondamentale de l'islam. Il vous l'explique. Puis pourquoi l'Iran, depuis deux siècles, a comme religion officielle le chiisme et non pas le sunnisme. Donc je vais rencontrer des sunnites et des chiites sur place, comme anthropologue. Mais c'est les historiens, les théologiens qui vont m'expliquer. Donc c'est ça les sciences sociales. C'est pour ça que je dis qu'actuellement, la situation que nous vivons, les conflits que nous allons vivre, que nous vivons, mais que nous allons vivre, mobilisent les sciences sociales autant que toutes les technologies et mobilisent la connaissance des hommes sur le terrain. Car pour les gens que nous fréquentons, c'est des vérités existentielles. Être sunnite et non pas chiite, c'est une vérité existentielle pour les gens et pour les groupes. C'est manipulé pour des tas d'intérêts politiques, tout ça, on comprend tout ça. Pas inventé ça, c'est pas quand même une projection de l'Occident. Ne racontons pas que nous ne créons que des récits fictifs avec la complicité des informateurs qui nous disent ce qu'on veut entendre. C'est scandaleux d'avoir lu ça dans la plume de jeunes anthropologues ou moins jeunes aux États-Unis qui ont fait le procès systématique de leur discipline. Que nous aurions été tous des complices, que toutes nos œuvres sont des fictions, que les fictions sont le produit d'une manipulation avec des informateurs qu'on payait pour qu'ils nous disent ce qu'on voulait bien entendre. Scandaleux d'avoir entendu ça. Mécanique, simpliste même. D'abord, l'Occident, c'est divers. C'est quand même en Occident qu'il y a eu la première critique du capitalisme. C'est nous-mêmes qui l'avons faite, avec des penseurs socialistes et toutes sortes de choses. Le christianisme social et tout. Donc, on n'a pas attendu les autres pour critiquer l'Occident. C'est les Occidentaux eux-mêmes qui ont développé leur propre critique sur eux-mêmes. Alors, vous voyez, nous vivons maintenant dans une époque, et nous allons vivre dans une époque dans laquelle les sciences sociales vont être, et pas seulement l'anthropologie, vont être incontournables. Si on sait les écouter. Et je ne parle pas pour moi, comme anthropologue, je parle pour les historiens. Je parle pour les spécialistes de théologie islamique. Moi, je ne connais pas. Vous comprenez. Mais on ne va pas me raconter que c'est avec des modèles économiques qu'on va m'expliquer la guerre en Irak, quand même. Ce n'est pas seulement le pétrole qui est en question. Ce n'est pas possible. Et même si l'Arabie saoudite perdait le pétrole, c'est possible, si on fait des énergies de substitution. Elle aura le nucléaire intellectuel et imaginaire, c'est-à-dire la Mecque et Médine, les lieux saints de l'islam. Les lieux saints de l'islam, c'est une source de pouvoir social, historique, et économique d'ailleurs, pèlerinage et tout ce que vous voulez, mais c'est un détail ça. On ne peut pas se confondre avec les 25% de réserves de pétrole mondiales qui sont en Arabie Saoudite. Donc, si les politiques ne comprennent pas ça, si les militaires américains ou autres ne comprennent pas ça, il y a quelque chose qui manque là. Et donc, vous voyez, je veux simplement ne pas parler dans le désert. Je veux parler avec des hommes politiques, des femmes politiques, d'ailleurs les gens comprennent, souvent ils sont mal informés, mais les banquiers aussi qui agissent dans ces sociétés, tout ça, c'est pas vrai que ça soit l'opacité générale. Mais premièrement, beaucoup d'intellectuels, enfin disons des chercheurs, ne cherchent pas à se faire entendre, ils ne savent pas parler pour que tout le monde comprenne, je m'excuse de vous le dire, mais... Et d'autres aussi ne s'intéressent pas à demander aux chercheurs parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à chercher là, il n'y a rien à trouver là, c'est faux. Donc les problèmes que nous vivons exigent que nous aussi on fasse des progrès dans l'analyse de ces phénomènes complexes. Ce n'est pas avec des théories un peu molles, c'est avec des outils analytiques plus puissants. Et donc, je suis aussi très orgueilleux, en ce sens que je dis qu'on peut rendre plus puissants nos outils analytiques et donc servir à faire mieux connaître la diversité quand même.
Canal Académie.
Vous parlez de la mort, de quelques vérités anthropologiques réputées éternelles, et donc vous citez parmi ces vérités célébrées 5 thèses. Je vous propose de revenir sur ces thèses et que vous nous éclairiez chacune d'entre elles. Alors la première que vous contredisez, vous dites « Les sociétés sont fondées sur l'échange des personnes et des biens, et ceux-ci revêtent deux formes, l'échange de marchandises, de dons et de contre-dons. »
Oui, parce que ça, on m'a fait ça quand j'étais jeune, sans échange, pas de vie sociale, etc. Oui, bon, après, quand j'ai repris tout le dossier sur l'échange, Mauss, Lévi-Strauss, etc., et bien d'autres, il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Il manquait une pièce fondamentale. C'était le fait qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas vendre et qu'on ne peut pas donner. Donc moi qui ai fait un livre sur l'énigme du don, il se termine par l'existence de, je dis, choses. Et donc, en fait, c'est un triangle qui existe. Il y a des choses qu'on vend, et donc elles se détachent de vous, elles sont aliénées. Il y a des choses qu'on donne, donc elles sont données, donc elles sont aliénées, mais vous êtes dans la chose donnée, parce que quand vous donnez, eh bien, il y a quelque chose d'inaliénable, c'est que vous avez donné à quelqu'un, et le quelqu'un est en dette vis-à-vis de vous. Vous êtes dans la chose donnée. Le sujet ne disparaît pas dans l'objet. Tandis que si j'ai produit une voiture et je l'ai vendue, ma Toyota, à quelqu'un, ben c'est fini. La Toyota ne porte pas ma marque individuelle, ni ma personne. Bon, ça c'est très clair. Mais on avait complètement oublié le troisième terme qui existe dans toutes les sociétés. C'est les réalités qu'on ne doit pas donner ni vendre. On doit les transmettre. On doit les garder pour les transmettre. La Constitution française. La Constitution française est un bien non marchand. Aucun économiste ne peut me dire on va acheter une constitution. On achète les voix des électeurs dans les démocraties. On n'achète pas les constitutions. Donc il faudrait quand même qu'ils se réfléchissent sur les choses qui sont fondamentales pour leur propre existence d'individus et de citoyens, qui sont des biens non marchands, c'est-à-dire une constitution. On ne peut pas acheter les constitutions. Il y a des professeurs qui écrivent des constitutions pour des despotes africains. Ils se font payer 50 000 dollars ou 50 000 euros. Ils vendent le texte d'une constitution. Mais une constitution n'existe que quand elle est appliquée et que quand les citoyens jouissent des droits de la constitution. Donc tout ça, ça devient clair pour moi qu'à ce moment-là, j'arrivais, on m'a dit, mais tu arrives au sacré. Je dis, oui, si tu veux, le sacré. Mais à condition de comprendre que le sacré n'est pas seulement le religieux, ce qui est vraiment évident. Les objets sacrés, il faut les protéger, les garder, les transmettre, ça c'est évident. Moi, quand je dis que la constitution d'un État démocratique est une chose qu'on ne peut pas vendre et qu'on se donne à soi-même pour se le transmettre, je vous montre que le politique fait partie du sacré d'un certain point de vue. Donc d'un certain point de vue, sacré dépend du religieux, qui était la tarte à la crème des bouquins de sociologie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, déplacement vis-à-vis de cela. Premier grand déplacement. Deuxième déplacement, la parenté n'est pas là. C'est impossible. Enfin, il suffit de regarder. On a été aveuglés.
Deuxième thèse, les rapports de parenté et la famille sont partout au fondement de la société. Thèse que vous contredisez.
Bien sûr. Mais enfin, la famille fout le camp, la famille n'existe plus, la société, etc. Tout ça, c'est pas vérifiable. Les familles changent de structure, les systèmes de parenté évoluent et ça donne un autre système de parenté. Ça ne donne rien d'autre que ça. Bon, ça ne donne pas une société. Donc, comment peut-on dire, sauf dans les idéologies, alors celle d'Aristote, elle est claire, les familles, les hommes libres, se fait des citoyens dans une police. Mais la police, ce n'est pas une famille élargie. La police, c'est-à-dire la cité grecque qui va faire la politique. Confucius, c'est pareil. Le culte des ancêtres dans la famille et le respect du fils pour son père, c'est le fondement de la société. Non, c'est l'apprentissage d'un rapport de subordination des fils vis-à-vis de leur père et de tous vis-à-vis de l'empereur. Donc c'est vrai du point de vue de l'empereur. Et quand les missionnaires très brillants, les missionnaires italiens, les jésuites, ont converti les premiers Chinois au christianisme, et qu'ils ont demandé qu'on détruise les tablettes des ancêtres qui étaient dans toutes les maisons, ça n'a pas duré. L'empereur les a virés, expulsion des jésuites. Non pas qu'il était contre les jésuites, cette religion, bien que les Chinois n'aimaient pas cette idée d'un dieu qui crée tout à partir de rien, ça leur semblait absurde. Pour eux, le monde est infini, sans commencement ni fin, tout est en procès. Donc la notion de procès et contre la notion de création. Donc, passons sur ce discours philosophique. Il y avait des grands philosophes qui discutaient avec les grands jésuites. Mais dès qu'on a touché aux tablettes... Bon, mais les tablettes, c'était le pouvoir impérial qui était reconnu à travers le père. Donc en définitive, faire une société, c'est pas étendre la parenté de la famille jusqu'à la tribu, de la tribu jusqu'à l'État, c'est pas vrai. C'est créer des rapports politico-religieux qui englobent et traversent toutes les familles. C'est ça. Alors, en général, c'est des philosophes conservateurs ou des députés de droite, peut-être, qui vous racontera la famille, tout ça, sans y croire d'ailleurs eux-mêmes. Mais pour les gens du peuple, ils veulent dire quelque chose. C'est que c'est dans la famille qu'on est, quoi. C'est dans la famille qu'on se construit. C'est la famille qui peut vous protéger contre la société, justement. Et ça, c'est évident. Mais ce n'est pas une thèse théorique, ça. C'est une reconnaissance qui ne dit rien sur la portée de la parenté pour faire des sociétés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même une remarque que personne ne va contester.
Maurice Godelier, troisième vérité réputée éternelle. Un homme et une femme produisent des enfants en s'unissant sexuellement. Là non plus, vous n'êtes pas d'accord.
Ça, c'était... Quand j'ai comparé toutes ces sociétés, pour faire mon grand livre sur la parenté, là, j'ai eu l'idée à un moment de... J'ai dit, mais attention, il manque une pièce. Tous les systèmes de parenté définissent des rapports entre parents et enfants, non ?
Et vous dites, un homme et une femme ne suffisent
oui,
pas
alors,
seuls
donc,
à faire un enfant.
Voilà, et donc je dis, qu'est-ce qu'un enfant dans un système de parenté ? Donc là, je me suis trouvé devant un domaine qui était très négligé par les anthropologues, mais en gros, quelques-uns avaient pensé et les féministes ont poussé. Parce que dès qu'on pose la question des genders, c'est le rôle des femmes et tout, alors est-ce que le sperme fait l'enfant ? Est-ce que c'est le sang menstruel ? Est-ce que la femme est un sac ? Est-ce que, etc. Est-ce que la femme est une génitrice et l'homme un géniteur ou pas du tout ? Et on commençait à comparer le statut des hommes et des femmes pour faire un enfant dans des systèmes, j'ai vu qu'il y avait une logique. Dans les systèmes matrilinéaires, beaucoup, l'homme avec son sperme ne fait pas l'enfant. Et c'est la femme avec son sang menstruel et un esprit d'ancêtre. Ah, un esprit d'ancêtre. Un esprit d'ancêtre devait se réincarner dans le ventre d'une femme, se mélanger, si on peut dire, avec ce sang menstruel pour faire un enfant. Donc, je trouvais à chaque fois, dans tous ces systèmes, que l'acte sexuel, d'abord pensé à chaque fois de façon... Les gens n'ont pas fait de biologie... On ne fait pas de théorie à partir des ADN. Il faut expliquer que l'humanité a inventé tous ces trucs qui sont des façons imaginaires de penser le processus de la vie. Hein. Ce n'est pas des vérités scientifiques, mais pour eux, c'est des vérités d'existence. Bon. Donc, il ne faut pas les prendre comme des vérités scientifiques. Et ce n'est même pas parce qu'ils auraient un peu de science qu'ils auraient inventé ça. C'est parce qu'ils sont dans un système patrilinéaire que le sperme fait l'enfant. C'est matrilinaire, c'est le sang. C'est la mère, etc., etc. Donc on voit des logiques sociales qui inspirent les représentations de la nature et du corps. Bon. Et donc qu'est-ce que je trouve partout ? Qu'un homme et une femme, quel que soit le rôle du sperme, et de bon, doivent avoir des rapports sexuels, mais que les rapports sexuels ne suffisent pas. Ça fait des fœtus. Et donc pour que le fœtus devienne un enfant, il faut qu'interviennent des agents différents des hommes, mais plus puissants quand même, puisqu'ils peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Et c'est quoi ? Des ancêtres qui se réincarnent, on en a plein en Afrique. Quand deux ancêtres veulent se réincarner dans une femme, elle meurt en couche, c'est terrible. Enfin, passons là-dessus. Et puis, bon, passons, disons tout simplement les choses. Les chrétiens oublient que c'est pas le sperme, quand il s'accouple, qui fait que l'enfant est une âme. Et donc je suis remonté dans la théologie chrétienne qui est dure depuis 2000 ans, et là on nous explique que Dieu, à un moment choisi par lui, introduit dans le fœtus, c'est-à-dire dans le ventre d'une femme, une âme. Et l'enfant est animé. Il naît comme un enfant avec une âme, mais cette âme est immédiatement chargée du péché originel dont les parents doivent le baptiser pour nettoyer cet enfant de ce péché originel transmis sans le vouloir par les parents, n'est-ce pas ? Depuis Adam et Ève, vous vous rendez compte ? Et ben, les chrétiens, ils ne savent pas ça, ils ne pensent même plus à ça la plupart. Il faut baptiser leur enfant. Ils ne pensent pas parce que Dieu a introduit une âme. Ça fait des siècles que ça dure, quoi. Et donc j'ai vu que ce n'était pas tellement différent des barouillas pour qui c'est le soleil qui finit le fœtus. C'était un dieu. Ça veut dire que les peuples n'imagine pas la conception d'un enfant sur des bases scientifiques, mais sur des bases politiques, qui donnent des droits à l'homme ou à la femme différents. C'est comme ça qu'on pose la question des... Et donc c'est des représentations qu'on dit idéologiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est des idées, des représentations qui sont des rapports de pouvoir, qui instituent des régimes de pouvoir entre les sexes, entre eux, etc., etc. Et donc, j'ai fait basculer, boum, cette histoire, un homme et une femme en faisant l'amour, ça y est, ils font des enfants, c'est des bêtises. Dans les cultures, c'est pas comme ça qu'on pense.
Canal Académie.
Quatrième vérité que vous contredisez, les rapports économiques constituent la base matérielle et sociale des sociétés.
Comme jeune marxiste, quand je suis parti il y a 50 ans, tout le monde était marxiste à Paris. Foucault était marxiste quand il était jeune, Althusser, etc. Enfin, même Lévi-Strauss, il flirte avec l'infrastructure, le primat des infrastructures, il dit dans La Pensée sauvage. Donc il y a une cinquantaine d'années après la guerre, alors que se confrontaient deux régimes économiques, le mode de production socialiste, le mode de production capitaliste, alors qu'on nous explique, et pas seulement Marx, que ce serait succédé dans l'histoire, et ça explique beaucoup de choses, l'esclavage dans l'Antiquité, le servage au Moyen-Âge et le travail salarié dans le monde moderne. On nous présentait une part négligée de la théorie, c'est de s'intéresser à l'économie, à des rapports économiques, en disant que c'était des rapports fondamentaux pour établir des sociétés, et c'est des rapports d'exploitation aussi quand même. C'était deux choses. Ça crée des bases et ça crée une hiérarchie. Donc, c'est pas négligeable, ces idées ne sont pas fausses non plus. Mais elles n'expliquent pas non plus que ça fait une société. Pourquoi ? Alors c'est là que j'ai vu que, si vous voulez, dans des sociétés où il n'y a pas de classe ou de caste et de groupe qui sont en train d'exercer des fonctions en permanence comme les sacrifices et tout ça, sans jamais travailler, jamais. Alors, dans les sociétés primitives, où il n'y a pas ça, on dit primitif, ça ne veut rien dire, dans les sociétés où il n'y a pas de caste, de classe, d'ordre sociaux, des hiérarchies stabilisées comme ça, l'économie ne peut pas faire la société. Donc, même ce principe marxiste, ça ne marche pas. Parce que les gens échangent, et quand ils créent des surplus, c'est pour reproduire la société dans des rites collectifs, dans des cérémonies, qui présupposent que la société existe pour la reproduire matériellement, comprenez-vous. Tout change quand même dans l'histoire, et c'est là qu'il y avait une vérité quand même, chez Aristote et bien d'autres. Tout change lorsqu'il y a des prêtres qui ne bossent pas quand même, non ? Des guerriers qui font la guerre. Il faut donc que le reste de la société leur produise leurs conditions d'existence. Des temples, des forteresses, des armes, des vaisselles sacrées pour des sculptures de dieux, etc. Artisanat de luxe, artisanat de groupes sociaux élevés au sommet de la société, dieux vivants parmi les hommes, les chefs et tout ça. Alors là, l'économie joue un nouveau rôle. Et c'est là que j'ai dû déplacer mes propres évidences de jeunesse. Parce que, si vous voulez, l'économie changeait d'importance. Elle avait une certaine forme d'importance dans les sociétés sans classe, sans caste et sans ordre. J'appelle ordre comme dans l'Antiquité, les équites et tout ça. Et, ou le tiers-état, n'est-ce pas, le fameux tiers-état. On ne parlait pas de classe avant le XVIIIe siècle quand même. Le mot classe, c'est nouveau. Le mot caste, c'est les Portugais qui l'ont inventé. Quand ils ont vu les rites de pureté et d'impureté en Inde, tout ça, c'est des mots occidentaux utilisés comme des catégories de la sociologie. Attention, Bon, passons là-dessus. Et donc, j'ai dû constater qu'il y avait un rôle différent de l'économie, parce que si là, les castes inférieures ne bossent pas pour les castes supérieures, c'est fini, terminé. Mais ça ne crée pas la société de castes, ça présuppose la société de castes. Donc, jamais l'économie, c'est tout à fait anti-marxiste ce que je vous dis, non ? Du moins, de la vulgate marxiste, jamais les rapports économiques ne pourraient créer une société comme une totalité avec une identité, les barouillas, les français, cette identité globale que chacun a malgré sa parenté et tout ça. Mais ça change de rôle. Et aujourd'hui, nous sommes dans un étonnement quand même. On n'a plus qu'un seul système mondial. Avant, il y en avait des milliers, des centaines. Toute société va rentrer plus ou moins vite et plus ou moins profondément, s'encastrer là-dedans avec les marchés, avec les turbulences et les crises. Mais ça n'explique pas non plus qu'ils vont... Ça ne veut pas dire qu'elles vont se dissoudre socialement et culturellement, qu'on aurait une sorte de gelée, de diaspora hybride par les portables et tout ça. Non. À chaque fois vont se reconstituer des identités opposées. La différence est nécessaire à l'homme pour exister, et pas seulement la ressemblance. Ce n'est pas quelque chose que je dis, ce n'est pas de la philosophie que je dis. C'est la constatation de processus qui ont été vérifiés. Donc je ne vous parle pas d'une philosophie comme ça, moi je ne suis pas philosophe pour ça. Je vous dis que la différence est nécessaire pour exister, donc on la reproduira tout le temps. On la reproduira. Mais on ne peut pas deviner d'avance.
Enfin, Maurice Godelier, dernière thèse avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Le symbolique l'emporte toujours sur l'imaginaire et le réel.
Ça, c'était des histoires de... Ça m'a frappé énormément. On a lancé, il y a 50 ans, dans ces formules, l'imaginaire l'emporte... Le symbolique l'emporte sur l'imaginaire et le réel. Ça veut dire quoi, ça, d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'était que le réel, alors ? Qu'est-ce que c'était que l'imaginaire, aussi ? Donc, on est parti avec des formules dans lesquelles tout est symbolique, tout est langage, tout est échange, tout est sens. Oui, ok, attention. L'imaginaire et le symbolique sont deux choses différentes dont il faut définir exactement. Le contenu et le fait qu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont les mêmes, mais ils ne peuvent pas exister. Un imaginaire qui n'est pas mis en spectacle, mis en acte, comme je vous ai raconté un acte de foi dans Jésus, par exemple, et un Dieu vivant parmi les hommes. On a donc approché un Dieu, ce Dieu a disparu, mais il reviendra peut-être, etc. Bon, des choses comme ça, c'est des rapports sociaux, mais en même temps, il y a un noyau imaginaire là-dedans. Ce noyau imaginaire, qui est un acte de foi, il doit être vécu et reproduit sans cesse, en vous et entre vous. Et il le fait par des rites, des cérémonies, la messe, ou n'importe, les baptêmes, les sacrements, etc., qui institue une société chrétienne, des rapports chrétiens entre tous les hommes et les groupes. Donc il m'a semblé qu'il était absolument être au clair sur l'imaginaire, le symbolique. Et qu'est-ce que ça voulait dire d'ajouter le mot réel ? Puisque pour moi, l'imaginaire, c'est un réel social, les gens qui pensent comme ça. C'est une réalité sociale. Ils sont chrétiens, ils sont bouddhistes, ils sont, je sais pas, ils sont chamanistes. Bon, d'abord, c'est donc une pensée qui est sociale. Elle est partagée. Deuxièmement, elle met en acte et en œuvre des rites, des coutumes, tout ça, symbolique. Et ensuite, elle crée une organisation de la société, des rapports. Mais le tout est réel. Je ne peux pas dire que les rapports qui sont créés soient seuls réels par rapport à l'imaginaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Ça vient de où ? C'est du réel. Donc, si on doit articuler ces choses-là, eh bien, on ne peut pas dire primat du symbolique sur l'imaginaire, puisque... Sans imaginaire, au départ, il n'y a pas de mise en scène symbolique. Le symbolique, là-dessus, apparaît comme second. Mais s'il n'y a pas de symbolique, l'imaginaire, c'est une affaire individuelle qui n'a pas de portée sociale. Donc sans le symbolique, l'imaginaire ne peut pas exister socialement. Ok ? Donc, si vous faites toutes ces analyses, à ce moment-là, à la fin, vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de problématique du primat de l'imaginaire ou du primat du symbolique ?» Et donc, je me débarrasse de ce problème en disant, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Parce que le réel, c'est la combinaison de trois éléments. L'imaginaire, le symbolique, les pratiques symboliques, les contenus imaginaires et les institutions sociales. Et le réel, c'est l'articulation de trois composantes qui sont la réalité. Il n'y a pas la réalité comme la soustraction, le reste. Après l'imaginaire, etc., avec le primat de l'un sur l'autre, le symbolique sur le... Non. Donc je me suis débarrassé de cette problématique et je dirais que ça marche. Parce que je peux rendre compte que la réalité s'est vécue de cette façon complexe. Je n'ai pas besoin d'avoir une réalité découpée en tranches, les idées d'un côté, les pratiques de l'autre, etc. Non. Vous pouvez tous les jours, dans une société par exemple, refuser de continuer à... reproduire cette société. Vous refusez certaines choses, vous refusez de voter, vous refusez de porter une carte d'identité, et vous pouvez refuser, c'est-à-dire vous pouvez interrompre pour vous-même la reproduction des rapports sociaux qui vous font vous-même socialement. jusqu'à un certain point, parce que c'est très risqué ce truc, hein. Sans carte d'identité, c'est tout ça, ça c'est. Mais vous pouvez le faire. Et c'est vous qui interrompez la reproduction du rapport. Donc, si vous voulez, ma position, c'est quand même une position dans laquelle, après avoir tant travaillé toutes ces expériences de terrain, ces enquêtes systématiques qui ne sont pas du journalisme, hein, c'est pas du journalisme. Je considère que l'anthropologie que je pratique maintenant, c'est une part des sciences sociales, puisque je ne peux pas la pratiquer sans les autres. Mais c'est très puissant comme instrument analytique. Donc, au lieu d'avoir, moi, une attitude, oh, je vis en crise, je suis malheureux, je ne peux rien comprendre, arrêtons, on est foutu. Je dis, au contraire, on est meilleur qu'avant du point de vue analytique. On a des outils plus critiques d'eux-mêmes, plus réflexifs. Donc, je ne me sens pas en crise, moi. Je trouve qu'on n'en fait pas assez pour comprendre autrui. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que ça suppose? Soyons philosophes, ça suppose que pour comprendre les autres, eh bien, l'altérité des autres n'est pas absolue. Si elle était absolue, je ne pourrais pas comprendre. Elle n'est que relative. C'est-à-dire, vous inventez le bouddhisme, quelqu'un qui n'est pas bouddhiste peut comprendre, sans devoir devenir bouddhiste. Vous pouvez comprendre, mais ça devient une abstraction. Tandis que pour un bouddhiste, c'est une vérité d'existence, c'est vécu. Vous n'êtes pas obligé de vivre la vérité des autres, vous voyez, c'est ça. La connaissance est possible. Mais bien entendu, pour moi, je ne suis pas barouilla. J'ai compris leur rite, j'ai été initié, je peux les comparer avec d'autres systèmes de parenté. Ils s'en foutent, les barouillas, que je leur dise que leur système de parenté est un système de type iroquois. Qu'est-ce que ça changerait leur existence? Mais ce n'est pas faux ce que je dis. Une connaissance peut rester abstraite, être valable, ce que dénient les postmodernes qui disent qu'il n'y a pas de vérité, c'est des fictions. Ça peut être une vérité comparable, vérifiable, sans que pour moi, ça soit une vérité d'existence que je vais prendre sur moi pour exister. Merci, merci beaucoup.
Merci Maurice Godelier de m'avoir reçu dans ce temple de l'anthropologie, c'est-à-dire l'école des hautes études en sciences sociales où vous travaillez en tant que directeur d'études. À votre livre qui s'intitule « Au fondement des sociétés humaines » publié chez Albin Michel et dont je conseille particulièrement la lecture de l'introduction, j'ajoute le livre que vous avez publié en 2006 « Métamorphose de la parenté » et sa conclusion dans laquelle vous revenez sur tous les changements socioculturels et le politico-religieux qui nous affectent et bouleversent nos sociétés. Alors suspense sur l'avenir. Nous arpenterons les allées de l'anthropologie à petits pas prudents, passionnante aventure de l'expérience humaine.